France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Impossible d'y échapper, elle tourne en boucle dans notre tête comme un hamster dans sa roue. Ces ruminations mentales qui nous agitent du matin au soir, ces pensées qui nous prennent la tête. Bref, on est foutu, on pense trop. Tel pourrait être le refrain de notre émission ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Mais ça veut dire quoi exactement, trop penser? Pourquoi le règne des conjectures dans notre tête peut provoquer une surchauffe de l'esprit, un malaise plus ou moins diffus, une anxiété, une déprime? Et puis il y a tous ces scénarios de la vie quotidienne que nous élaborons du réveil au coucher. Et si je perdais mon emploi, j'aurais pu répondre ceci, j'aurais pu faire cela. Bref, nous verrons quels sont tout de même les bienfaits de ces ruminations, mais aussi comment se forcer à ne plus penser à une chose finit par fonctionner. Nous vous dirons comment adopter les meilleures stratégies anti-rumination et validées par la science. Nous invitons à attendre vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, au standard et sur WhatsApp, mais aussi sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Elle est zen, elle ne connaît pas les ruminations, Marie-Laure Sonnenschein. Bonjour.
Bonjour,
rédactrice en chef à Femme Actuelle. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
La bloquer, la reporter, l'ignorer. Quelle est la bonne tactique pour chasser de son esprit cette pensée qui nous hante? Quelques activités réjouissantes, des émotions positives, du temps pour méditer, et voilà notre cerveau bien occupé pour ne plus mouliner ou pas.
Et avec nous, le roi de la méditation, Christophe André, notre psychiatre du mardi. Quel est le menu de vos choses presque, de vos choses vues, pardon?
Un cerveau qui ne s'arrête jamais de penser alors qu'on voudrait se reposer et même dormir, que faire? Eh bien, par exemple, écoutez ma chronique tout à l'heure.
À tout à l'heure, Christophe. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Une nuit d'horreur au Maroc.
Une attaque au couteau.
Guerre, attentat, catastrophe naturelle. Crise économique, radio, télé, réseaux sociaux, l'information partout, tout le temps et devant les écrans, de plus en plus de personnes vulnérables.
Qu'est-ce que ça provoque chez vous?
De l'anxiété tout court par rapport à toutes les horreurs qu'on peut voir, qui sont publiées tout le temps en permanence et à toutes les nouvelles horreurs qui se passent aussi tous les jours. On a moins de distance, je pense, par rapport à ça.
C'est vrai que ça fait une lassitude, à un moment on n'en peut plus, quoi, parce que ça fait trop.
C'est à peu près sans fin, finalement, on ne peut pas y échapper à moins de finalement s'en aller et de plus aller voir, quoi.
Alors, dans ce ciel lourd chargé d'actualité, peut-on se protéger et comment faire?
Extrait du JT de France 2 le 28 octobre dernier. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuroscientifique de formation, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, et vous proposez dans le numéro d'avril un dossier intitulé « Je pense trop, comment dire non aux ruminations ». Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes psychiatre et vous avez publié en poche « La charge mentale des femmes et entre parenthèses et celle des hommes ». Sébastien Boller, on vient de l'entendre, l'actualité anxieuse nous fournit mille et un motifs de ruminer, guerre en Ukraine, menace d'attentats, inflation, dérèglement climatique, risque de conflit nucléaire, que sais-je. Cette actualité agit comme un fond d'écran permanent dans notre esprit. Et impossible de se débarrasser de ces pensées anxiogènes que nous ruminons tous, presque tous.
Oui, le fond d'écran, c'est une image intéressante. Notre cerveau a une fonction fond d'écran, donc ça tombe bien. C'est-à-dire que notre cerveau, quand on n'a rien de particulier à faire, il passe son temps à explorer les possibles. Et notamment, il passe son temps à explorer les possibles dangereux, potentiellement menaçants, parce que c'est grâce à ça qu'on a survécu, grâce à cette capacité à toujours anticiper ce qui pourrait mal se passer. Donc c'est une fonction endogène à notre cerveau qui repose aussi sur des réseaux de neurones qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui a tendance à fonctionner comme ça. Donc quand vous mettez le cerveau face à une industrie de l'information qui propose d'alimenter cette boucle de représentation de tout ce qui peut mal tourner, on part en vrille, tout à fait. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir, l'articulation entre notre médiasphère et le fonctionnement ancestral de notre cerveau.
Notre cerveau est donc une machine à élaborer mille et un scénarios possibles, y compris les pires. C'est très épuisant. Cette extraordinaire capacité à élaborer des scénarios nous a permis de survivre dans des environnements très hostiles. C'est un organe, notre cerveau, à détecter les dangers depuis que nous sommes chasseurs-cueilleurs.
Oui, alors il y a des nouveautés par rapport à ça, puisqu'on a réussi à identifier même les réseaux de neurones dans notre cerveau qui remplissent cette fonction. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, c'est-à-dire que c'est un réseau d'aires cérébrales qui vont entrer en action par défaut, c'est-à-dire quand on n'a rien de spécial à faire, quand l'attention n'est pas attirée par un stimulus particulier. En gros, bah, quand vous êtes allongé le soir dans votre lit, quand vous êtes tout seul dans votre fauteuil, eh ben, c'est ce réseau qui s'active et lui, bah, il traque. Il traque tout ce qui pourrait se passer à moyen terme, à long terme. Donc, bah voilà, si vous êtes dans votre lit et que vous commencez à vous repasser en tête les derniers développements de la guerre en Ukraine, vous dites, bah ouais, finalement, s'il y avait un conflit nucléaire, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que je ferais, où est-ce que je stockerais de l'eau, comme voilà, et on part, on ne revient plus. Donc, pourquoi est-ce que ça nous a aidé à survivre? On a demandé au psychiatre David Gourion de nous expliquer un petit peu tout ça.
Neuroscientifique également.
Oui. Et psychiatre qui a étudié justement la dynamique neuronale des ruminations et qui montre qu'en fait, si vous êtes un être humain dans des conditions de vie ancestrales, vous êtes devant un milieu naturel, vous savez pas ce qui peut arriver, s'il y a des prédateurs, s'il y a des éboulements de roches, n'importe quoi. Donc au moindre bruit, vous devez imaginer. Est-ce que ça, c'est un danger potentiel qui se cache derrière le buisson ou c'est juste la brise printanière? Et ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de problème, ils ont été statistiquement éliminés de l'évolution. Alors ceux qui voyaient toujours le danger potentiel, eux, bah, prenaient leur disposition. Et le problème, c'est qu'il suffit qu'une fois, il y ait un vrai danger pour que vos gènes soient éliminés. Donc les gènes qui sont restés, ceux que nous portons dans nos cellules, ce sont ceux qui ont un peu tendance à anticiper le pire.
Sébastien Boller, qu'est-ce qu'une pensée, puisque notre sujet ce matin, c'est quand trop penser nous gâche la vie, et comment naissent ces pensées?
Alors une pensée, là vous demandez sur le terrain de l'ontologie. Non, en neurosciences, une pensée c'est un contenu mental, donc c'est quelque chose qui se fait jour dans notre esprit, dont on peut prendre conscience. C'est une représentation, ça peut être une image mentale. Les images mentales, il y a celles qui sont issues du passé, ça va être des souvenirs, il y a celles qu'on projette dans l'avenir, c'est l'imaginaire, il y a des concepts. Dans tous les cas, c'est une représentation, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait, c'est une représentation qu'on peut se rapporter à soi-même, qui est consciente, qui n'est pas une activité cérébrale subliminale. Donc c'est tout le monde mental qui peut aller et venir, soit à l'issue d'un effort délibéré, quand on pense, penser c'est un acte, ça implique de la déduction, de la réflexion, soit des pensées qui peuvent survenir de façon plus ou moins chaotique, qu'on peut saisir au vol, sur lesquelles on peut s'accrocher, qu'on peut faire monter en mayonnaise ou au contraire qu'on peut décider de laisser filer.
Christophe ?
Ce qui est compliqué, c'est que pour la plupart d'entre nous, l'acte de penser, hein, le verbe penser, signifie produire des pensées. Alors qu'en réalité, pour beaucoup d'observateurs, que ce soit des philosophes ou des chercheurs en neurosciences, penser, c'est pas produire des pensées, c'est choisir parmi tout le flux de pensées, d'images mentales que n'arrête pas de produire notre cerveau, comme vient de le dire Sébastien Boller, hein, lorsqu'il est dans cette activité de fonctionnement par défaut, il n'arrête pas notre cerveau, c'est une machine à produire des pensées, des images, des souvenirs, des anticipations. Et nous, ce qu'on appelle penser ou réfléchir, peut-être plus précisément, c'est choisir certaines pensées plutôt que d'autres, et parfois c'est l'inverse, c'est être choisi par certaines pensées. Certaines pensées s'imposent à nous parce qu'elles ont une charge émotionnelle, une charge affective, ce sont les pensées liées à l'actualité. Donc on n'est pas tout à fait le patron dans notre cerveau et tout à fait le patron dans le monde des pensées. Donc c'est pour ça qu'il faut des apprentissages pour tout de même ne pas être submergé par cette activité formidable au départ, évidemment.
Docteur Aurélien Schneider, qu'est-ce qu'une rumination et comment les psys appellent-ils ces pensées que nous repassons sans cesse dans notre tête, que nous remâchons j'aurais dû, j'aurais pu, il faudrait, oui. Il fallait
Alors, les ruminations, il y a une connotation plutôt négative de ce mot-là. Je dirais qu'en général, ce sont des pensées assez conscientes qui tournent en boucle de façon récurrente. Et alors, le plus souvent, comme l'a dit Sébastien, dans les périodes de creux. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit, il est 2h du matin, vous vous réveillez, vous ne pourrez pas résoudre le problème qui arrive à votre cerveau. Pendant les vacances, pendant les week-ends. Et donc, on en arrive à des situations où mes patients, souvent, redoutent les périodes de vacances, les périodes de week-end, et les remplissent avec énormément d'activités pour ne pas ruminer, pour ne pas que ces pensées arrivent et devoir résoudre, finalement, ce qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'il y a deux catégories de pensées, et il y a des pensées sur des situations qui n'existent pas, ou pas encore, et qui là sont des ruminations avec souvent le préfixe « et si jamais mm-hmm. », pourvu que, alors là on est certain que ça n'existe pas, qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème, et puis des ruminations sur des situations qui existent, mais qui n'ont malheureusement pas de solution, qu'on ne peut pas régler comme ça, brutalement. Quand on peut régler le problème, on le règle. Mais sinon, les ruminations concernent des situations qu'on ne peut pas régler.
Est-il possible de ne pas ruminer ? Existe-t-il sur cette terre des gens, des types de personnalités qui ne ruminent jamais ? Et est-ce vraiment une bonne chose de ne jamais ruminer, Christophe André ?
Alors, non, je crois que la différence entre les humains, c'est pas ceux qui ruminent et ceux qui ne ruminent pas, c'est ceux qui savent interrompre assez précocement leur rumination. Le problème des ruminations, c'est qu'au départ, on s'aperçoit pas qu'on rumine. On a l'impression qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on songe à des... Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais attends, là, ça fait un quart d'heure que tu tournes en boucle. Est-ce que tu te sens mieux? Non. Est-ce que tu t'es rapproché d'une solution? Non. Donc, voilà, là, tu réfléchis pas, tu rumines, tu ressasses, tu tournes en rond. Quand on arrive à prendre conscience et à adopter des stratégies pour écarter ces ruminations, alors dans les stratégies, on en reparlera, mais dans la journée, ben effectivement, il y a agir, il y a interagir avec les autres, il y a faire des choses. Bon. Et puis le soir, ben, il y a plutôt essayer de méditer, de se détendre. On ne peut pas bloquer nos pensées, on l'a déjà dit depuis le début de l'émission, mais on peut... moins y participer, les laisser un peu filer, les laisser passer. Et donc voilà, je crois que la différence entre les humains, elle est plutôt là. Ceux qui ont des stratégies adaptées, et puis ceux qui les subissent et qui en sont victimes.
Pourquoi ruminer sans cesse provoque des émotions négatives, désagréables, comme l'angoisse et le stress ? Quel est le circuit de ces pensées, de ces ruminations, qui s'incarnent donc dans le corps sous forme de malaise physique ?
C'est les ruminations, effectivement, là aussi, c'est un mélange impur, c'est un mélange de contenus verbaux. Aurélia parlait effectivement des anticipations, et si ça arrivait, mais il y a aussi les ruminations rétrospectives, bon sang, mais j'aurais pas dû faire ça, et si seulement je m'y étais pris différemment. Mais il y a aussi effectivement un contenu émotionnel. Ce qui est un problème dans les ruminations, c'est que ce ne sont pas juste des interrogations neutres, tranquilles, j'aurais dû faire ci... Ah ben je l'ai pas fait, donc allez, je passe à autre chose. C'est qu'il y a l'émotion de honte, de culpabilité, de colère, d'inquiétude qui s'ajoute et qui est le moteur, qui est le carburant. On dit souvent que l'émotion, c'est le carburant de la cognition. La cognition, c'est la pensée qu'on ne contrôle pas, qui arrive, etc. Et effectivement, le paradoxe, c'est qu'il y a surtout des émotions négatives, des ruminations négatives, alors que nous, parfois, on entraîne nos patients à avoir des ruminations positives. On leur dit, le soir, repensez à des bons souvenirs, faites-les tourner en rond, musclez un peu cette capacité à ruminer positivement. Mais bon, c'est ça, il faut y travailler. Alors que les ruminations négatives, elles nous viennent facilement.
Docteur Schneider.
Oui, c'est ça. En fait, il faut s'entraîner à travailler le positif. D'ailleurs... c'est clair, moi je fais noter des choses positives à mes patients, parce qu'ils ont une amnésie, comme une amnésie de ce qui s'est bien passé. Quand ça s'est mal passé, comme le disait Sébastien, il y a une espèce de mémoire traumatique utile qui nous fait faire attention, être plus prudent, et on oublie complètement ce qui s'est bien passé, ce qui est positif, et il faut s'entraîner, en effet, pour se souvenir des choses qui se sont bien passées.
Question de Paula qui nous demande pourquoi ces ruminations, ces pensées sont hors de contrôle. Pourquoi surgissent-elles, par exemple, quand je fais l'amour avec mon mari? Pourquoi est-ce que on est en train de faire une activité, puis bim, il y a ces ruminations, ces pensées un peu intrusives qui entravent une activité physique
Alors là, on Christophe. Est peut-être dans la psychopathologie, parce que après, voilà, tout ça, c'est normal, hein, c'est voilà que ça arrive. Si par exemple pour c'est Paula, voilà. La pauvre Paula, si ça lui arrive une fois, voilà. Bon, ok, bah, ce jour-là, il y a un petit bug dans son cerveau. Si à chaque fois qu'elle fait l'amour avec son mari,
là, il faut consulter.
Là, ça veut dire non, ce sont des pensées intrusives, ouais. Égodystoniques, contre sa volonté. Et là, on se rapproche un petit peu des TOC, voilà.
Alors, il y a notamment une version qui s'appelle les phobies d'impulsion.
Ah oui.
Qui sont
Racontez-nous ça, c'est très intéressant.
En fait, ce sont des idées très gênantes qui surviennent dans la tête, comme ça, mais gênantes au point que les gens ont du mal à en parler, comme « je vais pousser telle personne dans le métro » ou « je vais prendre ce couteau puis je vais tuer quelqu'un », des trucs comme ça. Ou alors « je suis pédophile », par exemple, si je remonte la braguette de mon garçon, de son pantalon, je vais lui toucher le sexe. Enfin, et vraiment, ces idées sont très désagréables, très intrusives, et surviennent dans de nombreux cas. C'est pas du tout des cas isolés, c'est plusieurs pourcentages de la population.
Et sont effrayantes, ces pensées.
Et sont effrayantes. Et en fait, sont témoins d'une conscience de l'effroi que ça génère, et ne sont jamais réalisées. Il faut le dire, c'est très important, ce sont des phobies d'impulsion, c'est-à-dire des craintes de passer à l'acte, mais qui ne se réalisent pas.
Vous êtes rassurante, docteur Schneider. Sébastien Boller.
Non, mais ce que montre tout ce dont on vient de parler, c'est la capacité de consolidation de certains circuits dans ces réseaux. Ça, on l'a observé aussi récemment. À l'intérieur de ce réseau du mode par défaut, qui est la source de nos pensées un petit peu divergentes, qui explore tous les possibles et non pas seulement le réel, à mesure qu'on fait tourner les pensées dans les mêmes circuits neuronaux, ils ont tendance à se renforcer. On voit les synapses, les connexions qui s'épaississent, et puis l'information qui commence à prendre toujours les mêmes chemins. L'image qu'emploie David Gourion, c'est celle du skieur dans la neige fraîche. Au début, la neige est profonde, il y a un premier skieur qui passe, et puis ça crée une trace qui est plus facile à emprunter pour les suivants, et tout le monde commence à prendre le même chemin. Et bien, les activations du réseau du mode par défaut, c'est un petit peu comme ça que ça se renforce aussi, si bien que la pensée, que soit la phobie d'impulsion ou les pensées intrusives dont on vient de parler avec Paula, aussi désagréable soit-elle, une fois que ces circuits ont été renforcés, ils sont plus faciles à réactiver. Et comme l'activité neuronale a quelque chose de stochastique, c'est-à-dire que ça s'active un peu où ça peut au hasard, lorsqu'il y a un chemin qui a été privilégié, qui a été renforcé, la probabilité pour que ce chemin se réactive augmente. Et c'est tout simplement ces phénomènes stochastiques qui se mettent en branle.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Sébastien Boller, le sommeil est-il un allié? On sait qu'il permet au cerveau de se nettoyer des déchets, des toxines produits, accumulés dans la journée. Est-ce qu'on est forcément plus clair au réveil, débarrassé de pensées négatives? Alors même, on le sait tous, qu'il peut arriver de s'endormir avec effectivement une petite angoisse, un étudiant qui a un examen le lendemain, une personne qui a une réunion importante. Est-ce que le sommeil va venir endormir tout cela finalement et permettre de se réveiller plus au clair?
C'est l'expérience que tout le monde fait. Quand on a des ruminations avant de se coucher, quand on fait une insomnie, quand on est dans des to-do list, quand on dit « il ne faut pas que j'oublie ci, ci », tout paraît être une montagne. Le lendemain matin, souvent, on se réveille en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Et on se rend compte que c'est trois fois rien. Que dès qu'on se met au travail, en quelques minutes, ce qui paraissait immense et insurmontable est réglé. Donc c'est très intéressant, ce phénomène-là. Ça fait appel... Il y a des théories qui disent qu'effectivement, pendant le sommeil, il y a un certain reset d'un certain nombre de connexions cérébrales. Et puis, ça a été étudié aussi dans le cadre de l'insomnie et des soucis qu'on a dans son lit quand on n'arrive pas à s'endormir. Il y aurait des changements dans la concentration de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui rapprocheraient ces états nocturnes d'une sorte de mini-dépression passagère. On a tendance à tout voir en noir, à minimiser ses chances de succès. Donc, faut savoir ça, parce que c'est très très frappant quand on le vit. On commence à tout voir à travers un prisme sombre, alors qu'il n'y a pas de raison.
Allez, dans un instant, des solutions validées par la science pour moins ruminer, ce sera juste après avoir écouté Aline de Christophe, une chanson sortie en 1965. Souvenez-vous, Christophe André, vos surbooms à l'époque.
Oh là là.
10h24 sur France Inter.
J'avais dessiné sur le sable son visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne.
Christophe interprété Aline.
Ouais, tu sais, j'arrête pas d'y penser. Hein. Ouais. Tout à l'heure, c'est pour ça que je dors pas là. Ça.
Grand bien vous
ouais,
fasse.
Oui, oui, ça mouline. Hein.
Oh, ouais,
ça
mouline.
Depuis tout à l'heure, ça m'a.
Bah, oui, Rébéi.
Ah oui, parce que là, c'est normal. C'est normal parce que ça agit. Alors ça.
Moi aussi.
Sur France Inter.
Quand trop penser nous gâche la vie, c'est notre thème ce matin. Comment dire stop aux ruminations qui nous assaillent du matin au soir. C'est notre thème donc avec le mensuel Cerveau et Psycho. Et une très bonne question de Denis. Comment passe-t-on des ruminations normales aux obsessions pathologiques, docteur Aurélia Schneider? Comment on passe du normal au pathologique?
Alors, le normal, ce qui est normal, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est d'avoir plein de pensées et puis de faire le tri. Alors, quand on va bien, on peut résoudre ces problèmes. D'ailleurs, c'est utile de se dire, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Éventuellement, je conseille de faire une petite to-do list, hein, un petit truc simple, parce que ça permet de se rassurer, et de résoudre et de faire. Et ça, c'est très apaisant. Le problème, c'est quand ça devient obsessionnel, c'est-à-dire que c'est envahissant, qu'on ne pense plus qu'à ça, et qu'on ne trouve aucune solution, et pour cause, comme je le disais tout à l'heure, les situations sont dans le futur, n'existent pas, ou du passé, et impossibles à contrôler. Donc, ces ruminations pathologiques, elles sont toujours les mêmes, et elles suivent toujours la même trace, en fait. Comme le disait Sébastien, moi j'appelle pas ça les traces de ski, mais en consultation, le Grand Canyon. C'est-à-dire, c'est tout le temps par là que ça passe. Et il n'y a jamais de variante, et on retombe toujours sur des problèmes qu'on ne peut pas résoudre.
Et ça devient une obsession pathologique quand ça vous handicape dans la vie quotidienne.
Quand c'est toujours la même chose, qu'on ne résout pas ses problèmes, qu'on ne veut pas avancer, qu'effectivement on passe des mauvaises vacances, des mauvais week-ends, des mauvaises soirées.
Quand on commence à développer un trouble anxieux généralisé par exemple,
alors, oui.
Un épisode dépressif.
Oui, alors qu'on est effectivement pathologiquement anxieux ou pathologiquement dépressif, et pas des réactions anxieuses ou petites réactions dépressives.
Alors, docteur Aurélia Schneider, je rappelle que vous êtes donc psychiatre, vous avez publié quelques années un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, La charge mentale des femmes. Les femmes sont-elles plus sujettes aux ruminations du fait donc de leur charge mentale plus élevée? Je rappelle que la charge mentale du foyer, eh bien, c'est le fait de penser en permanence à la gestion, à l'organisation, à la planification domestique, aux enfants, aux loisirs, aux réunions à l'école ou au club de foot, aux rendez-vous médicaux ou avec le réparateur du frigo. Et en 1984, la sociologue française Monique Ecco définissait la charge mentale comme le fait de devoir penser à un domaine alors qu'on se trouve physiquement dans l'autre.
Oui, c'est ça.
Les femmes sont plus sujettes aux ruminations.
Tant qu'elles seront le plus possible, en fait, encore maintenant, je crois que ça change avec la génération des vingtenaires. Hein. J'ai bon espoir que ça se mette à changer. Mais tant que les femmes sont en charge du foyer, et c'est le cas de nombreux couples traditionnels, eh bien oui, elles sont beaucoup plus sujettes à une surcharge. Alors, c'est l'organisation, c'est la simultanéité. Le problème de la charge mentale, c'est l'encombrement psychique qui est lié à l'obligation de faire des rétro-planning. Parce que si vous devez, le même jour, à la même heure, amener un enfant à son club de foot et un autre chez le pédiatre, vous ne pourrez pas faire ça. Donc il faut que les pièces du puzzle s'emboîtent bien et il faut avoir fait son rétro-planning. Donc les femmes sont plus sujettes à ça si elles s'occupent plus de la vie domestique, ce qui est encore beaucoup le cas de couples au-delà de 30 ans.
Et pour la chercheuse canadienne Nicole Bray, la charge mentale, c'est un travail de gestion, d'organisation, de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a donc pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Quand on rumine sans cesse, quand cette charge mentale pèse, ça peut mener à une sorte de burn-out parental.
Mais c'est-à-dire que moi, je peux faire un arrêt de travail quand les gens ruminent trop sur leur lieu de travail, quand ils sont pressurisés, mais on ne peut pas faire d'arrêt maladie pour un foyer. Donc, c'est très important de prendre quelques heures pour soi, et notamment quand on a des enfants, mettons-les à la cantine, prenons des jours de congé sans qu'ils soient là. Vouloir absolument à tout prix passer du temps avec eux, c'est très bien, mais il y a des systèmes qui sont très performants, d'école, de garderie. Pendant ce temps-là, on peut prendre son temps pour un massage, pour une lecture, pour une marche.
Peyo nous écrit « Contrairement à ma femme, j'ai l'impression qu'il m'est assez facile de me détendre et de ne penser à rien. Dans des moments de repos lâcher prise, tout cela semble impossible à ma femme qui a toujours quelque chose en tête et semble ne pas comprendre comment il est possible de ne pas avoir systématiquement quelque chose en tête. » Bon,
oui,
que répondre à Peyo ?
Je crois qu'il faut aussi que les femmes apprennent aussi à partager cette charge mentale, qu'elles apprennent à partager et qu'elles soient moins perfectionnistes. De temps en temps, ça fait du bien de ne pas faire le ménage, de faire la poussière, etc. etc.
Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho.
Il y a des vraies différences inter-individuelles sur cette capacité à tolérer en fait les moments où on se retrouve avec soi-même. Sans être actif, sans être stimulé par un écran, par un coup de vis à donner sur un meuble. Et on constate effectivement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être toujours dans l'action et qui ne supportent pas de se retrouver dans des moments comme ça où le réseau par défaut se réveille. Alors, on s'interroge là-dessus. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des différences déjà innées, hein, des différences génétiques à hauteur de 37%. Et c'est tout récent sur la capacité à être dans l'instant présent. Alors, des choses qu'on peut travailler, évidemment, par la méditation de pleine conscience notamment, mais nous ne serions pas tous venus au monde avec le même dispositif psychique, soit dans la volonté d'être toujours occupé à quelque chose pour faire taire la voix intérieure, soit dans l'acceptation de cette voix intérieure et de ce qui se passe dans la vie intérieure, dans l'instant présent. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à voir le jour, c'est des recherches assez nouvelles, mais évidemment, il y a aussi des déterminants liés à notre histoire personnelle qui font qu'on va être plus ou moins inquiet quand on se retrouve face à notre noyau personnel.
Ouais. Pierre nous demande si les ruminations sont forcément négatives. Les ruminations peuvent peut-être permettre également d'anticiper et de prendre de bonnes décisions. Ça peut être une aide à la décision, Aurélia Schneider.
Oui, tout à fait. Enfin, y a des ruminations qui aboutissent au bout de quelques minutes à des solutions. Mais si au bout d'un quart d'heure, on voit qu'on piétine, là, ce sont des ruminations qui vont rien apporter, sauf de la fatigue. Parce qu'il y a aussi une interaction très puissante entre fatigue et anxiété. C'est-à-dire que plus vous êtes fatigué, plus vous êtes anxieux. Et plus vous êtes anxieux, plus vous êtes fatigué. Donc, cette interaction, il faut la briser, en fait, en quelque sorte. Hein.
Gilles nous demande pourquoi il a tendance à tourner en boucle des choses apparemment futiles, un collègue qui ne l'a pas salué dans le couloir, ou bien une répartie qu'il aurait aimé avoir lors d'une réunion de travail.
Alors ça c'est intéressant parce que ça fait référence à un travail plus cognitif. À ce moment-là, c'est intéressant de se demander quelles sont les autres raisons qui font que ce collègue ne l'a pas salué. Parce que si son collègue est myope et qu'il a pas ses lunettes, il ne l'a peut-être pas vu. Ou si son collègue a des soucis, il ne l'a peut-être pas salué parce qu'il était préoccupé et absorbé par ses soucis. De temps en temps, on a tendance à être tout le temps dans la même pensée et à ne pas voir que d'autres possibilités sont là, à notre portée, d'autres possibilités de penser.
Sébastien Boller.
Alors, ce que nous dit cet auditeur, ça nous ramène vers une des grandes découvertes qui est liée depuis 10-15 ans à l'étude de ce réseau du mode par défaut.
Rappelez ce qu'est ce réseau.
Donc on a découvert, c'est Marcus Reich aux États-Unis qui était un neuroscientifique qui au départ faisait des expériences de neurosciences toutes simples, comme on regarde quelle zone du cerveau s'active quand on fait une tâche précise, par exemple lire un livre, et on prend toujours par comparaison un groupe contrôle qui ne fait rien. Et donc il s'attendait à voir que ceux qui ne faisaient rien auraient une activité cérébrale nulle. Et paf, il voit qu'en fait non, quand on fait rien, le cerveau il s'active beaucoup. Et donc c'est comme ça qu'il a identifié un ensemble d'aires cérébrales qui s'activent par défaut, c'est-à-dire quand on ne fait rien, et qui sont responsables du vagabondage mental, de la réflexion sur soi. Et puis on s'est rendu compte, et c'est là que je reviens à la question, peu à peu, que ce réseau par défaut, effectivement, est très important pour réfléchir à qui on est, quelles sont les expériences de vie qu'on a faites, comment on articule ça avec le futur, et aussi très important pour réfléchir à notre lien avec les autres. C'est ce qu'on appelle la cognition sociale. C'est très important, sans arrêt, pour se dire, tiens, comment je me situe dans un groupe, est-ce que lui va être content si je fais ça, est-ce que je peux lui faire confiance dans ce type de situation. L'être humain a vécu depuis des millions d'années dans des groupes, et ce réseau de mode par défaut ne cesse d'explorer les possibilités d'interaction sociale et comment elles peuvent évoluer. Et en ce sens, je sais plus comment s'appelait l'auditeur qui nous a appelé, qui dit, ça me vient à l'esprit quand je me demande, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu répondre. C'est exactement ça. On a une machine à sans arrêt se questionner sur la bonne santé de nos relations aux autres et comment on peut les améliorer, comment ça peut évoluer.
Peut-on dire, Sébastien Boller, que l'oisiveté est la mère des ruminations? C'est un péché capital pour nos cerveaux ruminants de ne rien faire?
Oui. Alors, est-ce que c'est un péché? Mais en tout cas, c'est le terrain sur le terreau sur lequel se développe la libre... Enfin, c'est pas forcément de la rumination. C'est-à-dire que ce fameux réseau par défaut, il s'active dans les moments où on ne fait rien. Et il s'éteint dès qu'on fait quelque chose. Donc il y a vraiment un phénomène de vase communicant entre la vie intérieure liée à l'inaction et l'extinction de ce réseau quand on est dans l'action. Donc, en fait, ce générateur de pensée, je pense que c'est la base, en fait, de ce qui fait la cognition humaine, c'est-à-dire la capacité, non pas d'être uniquement en prise avec le réel quand il se présente sous nos yeux, mais d'envisager d'autres scénarios. Et c'est ça qui fait la force de la cognition humaine, c'est d'imaginer des possibles, de sélectionner des scénarios, de planifier des actions, d'en parler aux autres, de se faire des récits collectifs. Donc ça devient de la rumination quand quelque part on n'arrive pas à structurer cette génération spontanée d'idées. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est de ne peut-être pas assez travailler sur la façon dont on donne forme à ce monde intérieur, parce que dès qu'on a l'opportunité, on le remplace par de l'action ou de la stimulation, notamment à travers les écrans.
Christophe André.
Oui, l'oisiveté, alors c'est bon, c'est un péché capital pour la théologie chrétienne, mais si on change le mot, si on dit la non-action, là, ça peut être une vertu, c'est-à-dire ne rien faire, ça peut être aussi le boulevard vers la créativité, l'apaisement, la détente.
Je suis d'accord avec vous, Christophe.
Voilà. Et c'est la même chose pour le réseau par défaut. Sébastien Boller rappelait que ce réseau par défaut, il est associé à la cognition sociale, à la génération d'hypothèses sur ce que je peux faire, etc. On sait aussi qu'il peut être détourné dans des maladies comme la dépression ou la schizophrénie, où le réseau par défaut surfonctionne, mais mal, avec des pensées autocentrées, avec ces fameuses ruminations. Donc tout ça, ce sont des fonctions cérébrales qu'il s'agit d'apprendre à bien utiliser. Ne rien faire, c'est génial, sauf si on se sert de ce ne rien faire pour ressasser, ruminer, s'énerver.
Alors comment enrayer nos ruminations mentales? Nous évoquerons tout à l'heure la suppression cognitive qui consiste à chasser volontairement de sa conscience les pensées qui nous tourmentent. Existe-t-il, Sébastien Boller, des molécules qui permettent d'inhiber ces ruminations? Existe-t-il des moyens pharmacologiques d'atténuer ces ruminations? Le psychiatre David de Gourion évoque quelques pistes dans Le cerveau et psycho.
Oui, alors là, on est face à la question du grand boom des psychédéliques, donc les molécules hallucinogènes. Certaines sont tirées de champignons, comme la psilocybine, qui tire un champignon qui s'appelle le psilocybe, qui pousse sous nos latitudes. Mais il vaut mieux pas faire n'importe quoi, pas toucher. Mais et aussi, par exemple, le LSD, hein, qui est une molécule de synthèse, c'était le premier psychédélique synthétisé par Hoffman, il y a maintenant plus d'un demi-siècle.
Vous n'incitez pas à prendre du LSD ce matin pour chasser nos ruminations, attention.
Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des recherches très très nombreuses qui sont en train d'installer ces psychédéliques comme des voies de traitement très efficaces, notamment dans certains types d'addiction, de TOC, de dépression. Alors, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours, ça doit être fait de façon très très encadrée, mais un des effets, et on retombe sur notre bon vieux réseau du mode par défaut, c'est notamment d'abaisser l'activité du réseau de mode par défaut, qui relâche un petit peu la soupape à ce niveau-là.
Tiens, Christophe André, pourquoi la méditation de pleine conscience peut permettre de mettre à distance ces ruminations ?
Elle a une vertu très importante, c'est qu'elle nous permet de leur, elle leur permet d'être là. On ne cherche pas à les chasser, à les critiquer, à les transformer. On fait comme avec un bruit qui nous gênerait, un bruit dans l'environnement. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de penser à autre chose ou d'aller faire cesser ce bruit, ce qu'on ne peut pas faire, on se dit, ok, essaie de permettre à ce bruit d'être là, mais ne laisse pas toute ton attention se focaliser sur ce bruit. Essaie de te relier à ta respiration, aux autres bruits, au fonctionnement de ton corps. Et au fond, la méditation, c'est un entraînement attentionnel pour ne pas nous focaliser seulement sur certains éléments. Le problème qu'on a quand on rumine, c'est pas seulement qu'on a ces pensées qui alertent notre attention, c'est que on n'a plus que ça en tête. Si j'ai une petite pensée qui tourne dans un coin de ma tête, mais que je suis en train de regarder un film passionnant, ou de rire avec des amis, ou de marcher dans la forêt, au fond, son influence sur moi sera beaucoup moins grande.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Sébastien Boulaire, dans votre dossier, David Gourion dit quelque chose, moi j'avoue, qui m'a un peu surprise, c'est qu'on peut donner rendez-vous à ces pensées négatives. Alors là, m'est venu un flash, je me suis dit, je sais enfin pourquoi les gens font la tête dans le métro, parce qu'ils ruminent. Ils ont mis ça de côté toute la journée, ils ont dit, bon, ce soir, j'ai le 17h42, direction Corbeil-Essonne, je vais ruminer. Alors, donc j'ai donné rendez-vous à mes pensées négatives. Mais vraiment, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut se dire, je le ferai tout à l'heure, et je consacre un temps à ce moment-là, ne me dérangez pas, oui. Je fais la tronche, je rumine.
Marie-Laure, j'avais pas vu les choses comme ça, mais hier, dans ma rame de métro, sur la ligne 2, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui ruminaient.
Voilà. D'accord.
Sébastien.
Ouais, en fait, ils n'ont pas donné rendez-vous au bon moment, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, quand vous avez une rumination, une pensée intrusive qui vous cueille à 4h du matin pendant la nuit, là, l'idée, c'est de se dire, maintenant, de toute façon, je ne pourrais pas entrer dans un mode de résolution de problème. Je vais donc sans arrêt tourner ça dans ma tête, ça ne débouchera pas sur une résolution du problème, donc ça va réenclencher la boucle et ça peut durer longtemps. Donc l'idée, c'est de dire, je vais me mettre une alarme, n'importe quoi, une alerte sur mon téléphone, un pense-bête, que sais-je, pour donner rendez-vous à ce problème à un moment où je pourrais m'y attaquer, parce que là, quand même, je suis en position de faiblesse. C'est ça l'idée qu'évoque David Gourion, et de fait, quand on le fait, alors ça marche pas à tous les coups, hein, parce qu'il y a un côté émotionnel qui fait que parfois il suffit pas de se dire j'ai mis une alerte et je m'en occuperai demain, parce qu'on, c'est comme si on aimait bien continuer à tourner ça dans la tête. C'est très très bizarre, je pense que c'est lié à la facilitation synaptique, le fait que l'influx nerveux continue à tourner. Mais quand même, si, je crois que ça... Moi j'en ai fait l'expérience, beaucoup de gens m'ont confirmé qu'effectivement, une fois qu'on sait que on s'en occupera le moment venu, et surtout une fois qu'on l'a fait, une fois que ça a marché, on peut peu à peu se faire confiance dans ce rendez-vous.
Docteur Aurélien Schneider.
Et alors, je remarque aussi quelque chose avec mes patients, c'est en fait, ils ne s'arrêtent pas de ruminer parce que c'est comme une espèce de superstition. C'est, si ça s'arrête, si ça se met à aller bien, c'est louche. Il y a vraiment ce côté, bon, il faut toujours lutter parce que quand on se relâche, c'est là que ça se met à pas aller. Dans ces conditions-là, c'est dur de soigner les gens.
Allez, il est 10h43, l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Oh punaise, déjà 20h et je ne dors pas encore. Je suis crevé pourtant. Enfin, j'étais crevé avant de me mettre au lit. En plus, j'ai une grosse journée demain et je veux dormir, mais mon cerveau n'arrête pas de produire des pensées. Impossible de l'arrêter, il tourne tout seul. Parfois, ça part dans tous les sens, un défilé de pensées, d'images, sans queue ni tête. Plus souvent, Ce sont des idées fixes, des ruminations en général négatives, des soucis, des ennuis, des inquiétudes, quelquefois positives quand j'ai des projets qui m'excitent, mais qui en attendant tournent en rond dans ma tête. Parfois, c'est même un air de musique lancinant, ce qu'on appelle un ver d'oreille, qui creuse ses galeries dans ma cervelle.
Vous l'avez jamais eu ça?
Ah, la lambada avant de s'endormir. Adieu sommeil, doux rêve et récupération. Allez, levez le doigt les personnes qui n'ont jamais vécu tout ça. Pourquoi notre cerveau nous joue-t-il ce genre de tour, nous submerge de cogitation juste au moment de s'endormir? C'est simple, parce que le corps est immobile, privé de mouvement, et parce que l'esprit est inoccupé, sans action ni distraction pour nous détourner du bavardage mental. Et oui, dans la journée, nous bougeons, nous agissons, et ce sont les deux grands remèdes anti-rumination. Mais quand nous ne pouvons ni bouger, ni agir, comme quand on veut se détendre ou dormir, il faut avoir d'autres solutions pour les jours où notre cerveau est agité, sinon... Ça revient. Ouais, stop. Parmi ces autres solutions, il y a bien sûr la méditation qui nous apprend à apaiser notre esprit, à observer tranquillement, de loin, le mouvement de nos pensées, sans l'alimenter. Il y a aussi de nouvelles techniques psychothérapiques dans lesquelles on apprend à écarter doucement nos bavardages mentaux. On a longtemps cru que vouloir chasser nos pensées, non seulement ça ne marchait pas, mais que cela entraînait un effet rebond. Eh bien non, ça fonctionne, à condition de s'y entraîner régulièrement. Et puis, on n'y pense pas assez souvent, mais un grand facteur aggravant de notre incapacité à laisser notre cerveau se reposer, ce sont les écrans et leur contenu que nous lui faisons avaler à notre pauvre cerveau toute la journée. Dès qu'un temps de pause survient, on se jette dans les écrans au lieu de laisser notre cervelle se détendre, flâner, renifler la vie et surtout ne rien faire. Et oui, un cerveau, c'est comme un enfant. Si vous le surstimulez dans la journée, le soir, il ne sera pas fatigué, mais excité et pénible. Et du coup, au moment de dormir... Aïe, 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 stop. Bon, pour être tout à fait honnête, je dois vous dire que les cogitations, les ruminations, les obsessions n'ont pas attendu l'ère des écrans pour exister. Voici par exemple ce qu'écrivait Paul Valéry dans les premières lignes de son petit récit passionnant « L'idée fixe ». J'étais en proie à de grands tourments. Quelques pensées très actives et très aiguës me gâtaient tout le reste de l'esprit et du monde. Rien ne pouvait me distraire de mon mal que je n'y revinsse plus éperdument. Il s'y ajoutait l'amertume et l'humiliation de me sentir vaincu par des choses mentales, c'est-à-dire faite pour l'oubli. C'était en 1934 et effectivement pas d'écran à l'époque, mais disons que ce qui était alors peu fréquent, au point d'en rédiger un livre, est devenu aujourd'hui banal. D'ailleurs, comment le héros de Valéry va-t-il se sortir de ses idées fixes? Eh bien, les réponses courent tout au long du livre. Alors, à la prochaine insomnie, lisez Valéry, ce sera toujours mieux que de fuir vos cogitations dans les écrans.
Paul Valéry, l'idée fixe, tous les épisodes des choses vues de Christophe André à podcaster, à partager sur l'appli France Inter. Dans un instant, on s'intéresse à ce que les spécialistes appellent la suppression cognitive. C'est le fait de chasser volontairement de sa conscience les pensées qui nous tourmentent. Ce sera juste après avoir écouté le nouveau titre de Gossip, Real Power.
In the corner, standing still. In a moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? Oh.
once and always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel?
Gossip Girl interprétée Real Power.
Grand bien vous fasse.
Tu peux pas penser à autre chose, non? Non!
Ali Rebéi.
Ça travaille, hein? Oui, parfaitement, ça me travaille.
Sur France Inter.
Comment dire stop aux ruminations qui nous assaillent du matin au soir? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Mathilde.
Bonjour. Déjà, merci pour votre émission. Je trouve que le sujet du jour me concerne pas mal et. Quand on pense trop, on a tendance à vouloir trop bien faire, et parfois ça nous empêche de passer à l'action. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Merci.
Christophe André, un conseil à Mathilde?
Oui, oui. Alors c'est vrai que quand on observe comment fonctionnent les gens procrastinateurs, hein, vous savez, la procrastination, c'est la tendance à ne pas passer à l'action, justement. C'est pas forcément des gens paresseux, flemmards, c'est au contraire des gens qui spéculent trop sur « je dois faire les choses très très bien, je dois les faire très correctement, je dois les faire parfaitement ». Et du coup, à force de cogiter sur la manière idéale de faire les choses, ils repoussent sans arrêt le moment de se jeter dans l'action. Ils n'acceptent pas le fait que l'action est forcément toujours imparfaite et que mieux vaut une action imparfaite que pas d'action.
Docteur Aurélia Schneider.
Je suis tout à fait d'accord. Lutter contre son perfectionnisme, c'est essentiel. Il vaut bien mieux faire les choses gentiment, tranquillement, que parfaitement, parce qu'au risque de ne pas les faire.
Pour éviter le ressassement, Sébastien Boller, il existe de nombreuses stratégies. Je pense à l'activité physique régulière, et puis aussi le fait de dessiner, de cuisiner, de regarder un bon film, une bonne série, de tricoter, de faire le ménage. Ça permet tout ça, toutes ces activités, d'abaisser ces ruminations.
Oui, alors il faut savoir qu'effectivement, il y a une boîte à outils de solutions à portée de main de chacun. Il faut se tester. Parce que tout ne marche pas de la même façon chez les uns, chez les autres. Le sport est quand même globalement assez favorable, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça modifie quand même le fonctionnement l'irrigation sanguine du cerveau, avec une diminution notamment de l'activité au niveau frontal, ce qui a tendance à abaisser un petit peu l'activité des boucles de rumination. Le fait qu'il y a libération aussi de facteurs de croissance neuronale qui favorisent la neuroplasticité, donc qui vont permettre de réaiguiller un petit peu les neurones, de les laisser dans cet état figé. Et puis tout ce qui va effectivement permettre de s'occuper à quelque chose, ça va nous tirer de cet état de vulnérabilité où on est dans l'inaction, effectivement. Donc ça peut être, oui, se dire, tiens, je vais faire un peu de ménage, ou je vais écouter de la musique, je vais dessiner, je vais colorier, on en parlait à l'instant. Dès qu'on est occupé à quelque chose, on est quand même beaucoup moins dans la rumination.
Véronique nous écrit, quand je rumine, que les pensées tournent en rond, ça m'aide beaucoup de les écrire, de les mettre à plat. Ça me permet d'y voir plus clair et d'arriver à une décision. On parlait d'activité physique, Christophe André, vous êtes un grand marcheur comme moi, j'imagine que vous avez remarqué que lorsque l'on se met à marcher, notamment dans la nature, le taux de rumination a tendance à chuter.
Ah bah oui, la marche déjà est bénéfique parce qu'elle atténue l'intensité des émotions qui nourrissent les ruminations. Ensuite, elle nous connecte en dehors de nous, hein, elle détourne l'attention de la focale attentionnelle de nos soucis pour les ouvrir quand même vers ce qui nous entoure. Mais c'est vrai que pour reprendre un peu ce que disait Sébastien et puis cette histoire de marche, au fond, il y a trois grandes stratégies par rapport aux ruminations. Il y a les deux stratégies qu'on utilise assez spontanément dans la journée, agir et se distraire, l'action et les distractions. temps. Et puis quand même, de temps en temps, il faut utiliser cette troisième stratégie qui est la stratégie de la confrontation. L'auditrice qui écrit ses pensées, c'est un premier pas vers la confrontation, mais il y a toutes ces nouvelles approches dont on va parler et qui nous apprennent à nous confronter aux pensées intrusives, aux ruminations et à voir comment les remettre à leur place.
Aurélia Schneider.
Oui, très important l'écriture et surtout de relire après coup et de voir si réellement ou pas le drame escompté ou le scénario catastrophe s'est produit.
Sébastien Boller, j'aimerais qu'on termine cette émission avec ce que les spécialistes appellent la suppression cognitive. Expliquez-nous ce que c'est.
C'est l'idée qui paraît très simple de se dire si on veut arrêter de penser à quelque chose, on se force à plus y penser. Alors cette idée, elle a été au départ considérée comme dangereuse, voire impossible, par plusieurs courants de psychologie et de science. Au départ par la psychanalyse, qui parlait du refoulement. Il dit, si on se force à pas désirer ou penser à quelque chose, ça va dans l'inconscient, puis ça ressurgit d'une façon ou d'une autre. Et puis par un psychologue qui s'appelait Daniel Wegener, dans les années 60, qui a imaginé une expérience qui est connue, qui s'appelle l'expérience de l'ours blanc, qui dit, essayez donc de ne pas penser à un ours blanc. Il met des volontaires dans une pièce, il leur dit, maintenant, votre but, là, dans le quart d'heure qui vient, c'est de ne pas penser à un ours blanc. Et après, il les débriefe, il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant tout ce temps? Les gens disaient, j'ai pas arrêté de penser à un ours blanc. Parce que pour ne pas penser à un ours blanc, en fait, faut se le représenter. Donc, pendant un temps, on arrive peut-être à repousser l'image, puis elle revient au galop. Donc, c'est l'idée qu'il y a des effets rebonds. Et donc, longtemps, on s'est dit, ça sert à rien de se forcer à ne plus penser à quelque chose d'obsédant. Jusqu'à un nouveau courant de recherche qui est porté notamment par Michael Anderson à l'université de Cambridge, avec une de ses post-doctorantes.
Zulkeïda Mamat.
Mamat, qui est intéressante. Son histoire est intéressante parce qu'elle est d'origine Ouïghour. Elle a vécu dans les conditions où sont les Ouïghours, avec beaucoup de ses semblables qui étaient persécutés, qui ont vécu des choses très difficiles et qui étaient victimes de retours de pensée traumatisantes et qui lui disaient tous, moi j'arrive à m'en débarrasser en me forçant pendant un certain temps de plus y penser. Donc ils ont mis sur pied un protocole où ils testent justement des expériences dans lesquelles on se force à ne plus penser à quelque chose de préoccupant, par exemple la possibilité qu'un de vos proches tombe malade du Covid, en réponse à un indice comme le fait de qu'on voit un masque, par exemple. Et en s'entraînant à chaque fois qu'on voit un masque, à ne pas penser au spectre du Covid, en se restant focalisé uniquement sur l'indice qu'est le masque, et sans dériver vers la pensée angoissante, quand on fait le bilan plusieurs semaines après, on se rend compte que les gens, ils sont moins assaillis par des ruminations sur le Covid, leur santé mentale globalement est de meilleure qualité, ils dépriment moins, ils sont moins angoissés, et pour 82% de ceux qui ont un syndrome de stress post-traumatique, les symptômes du PTSD ont régressé.
PTSD ?
Le syndrome de stress post-traumatique.
Quelles sont les critiques qu'on peut adresser à cette suppression cognitive ?
Eh bien, il reste toujours la possibilité que, dans certains cas, notamment dans les traumatismes les plus graves, ça ressurgisse de façon encore plus incontrôlée et encore plus traumatisante.
Ouais, ce qui est remarquable dans cette étude, effectivement, c'est que c'est en 3 jours. On apprend à la plupart des gens, en 3 jours, à mettre à l'écart ces pensées intrusives excessives. Donc ça, c'est quand même formidable. Alors, effectivement, ça marche pas chez tout le monde, mais c'est une approche de première ligne.
Docteur Schneider, un dernier conseil pour moins ruminer
Ce serait merveilleux si j'avais en 30 secondes un super conseil. Mais réellement, prenez le temps de constater que les scénarios catastrophes escomptés et lucubrés ne se sont pas produits en général.
Et ne se produiront pas,
en règle générale.
Sébastien Boller.
Oui, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'idée des croyances qu'on a. Et Aurélia le disait tout à l'heure, souvent ces personnes sont persuadées que en surveillant tout mentalement, en imaginant tous les scénarios possibles, on va les empêcher d'arriver. Or, on peut très, très, très facilement les amener à constater que non, c'est pas parce qu'on surveille tout que rien n'arrive.
Merci docteur Aurélia Schneider, merci Sébastien Boller. Je pense trop, comment dire non aux ruminations, c'est la une du tout nouveau Cerveau et Psycho. Merci au Tic et Tac du mardi, Christophe André et Marie-Laure Sunshine de Femmes Actuelles, demain une sélection de livres pour les enfants et les ados et un zoom sur le métier de bibliothécaire.